Oui, justement, Mounir Majoubi, une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre. Vous aussi, vous avez les cheveux longs, mais on espère que vous aurez les idées longues. Mais c'est bien, nous, on aime bien les cheveux longs.
Quelle réaction ? Vous savez, quand on aime un jeune, quand on aime un enfant, on prend le temps de lui dire ce que l'on souhaite pour lui et, et les conseils qu'on a envie de lui donner. C'est le mépris qui fait qu'on ne répond pas. Là, Emmanuel Macron s'est comporté comme un président de la République, mais aussi comme un adulte dans la société. Et quand on est un adulte dans la société, on participe tous à l'éducation des jeunes autour de nous. On participe tous à l'évolution et à l'inclusion dans la société des jeunes autour de nous. Et bien là, ce jeune a fait, selon le président, un faux pas. Et quand on dit Emmanuel sur le Mont Valérien, le jour, après les cérémonies du 18 juin, après le discours du président, au moment où le président vient passer du temps avec les personnes, avec notamment autour de ce jeune, si vous voyez les photos, des personnes très âgées, avec des gens qui se sont engagés, eh bien oui, c'est déplacé. Et oui, c'est bien un président qu'il rappelle quelques éléments à ce jeune garçon. Et si vous écoutez la fin, parce que vous avez parlé du début et de l'international, vous verrez que sur la fin, ils ont une discussion très apaisée et où le jeune lui-même continue à discuter et à parler de son avenir. Donc moi je trouve cela très positif.
Si on s'éloigne un peu de cette scène Mounir Majoubi, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre l'évolution du temps, parce que l'évolution du temps que vous incarnez d'ailleurs avec le numérique notamment, elle va vers des relations entre les êtres plus informelles, parfois d'ailleurs aussi un peu trop informelles, puisqu'on parlait tout à l'heure des insultes sur Internet, et on a un président qui lui en rajoute plutôt dans le formalisme.
Je ne suis pas d'accord avec vous d'ailleurs, il lui dit Tu m'appelles monsieur le président ou monsieur. C'est-à-dire qu'il l'autorise aussi à appeler monsieur, qui est une forme assez informelle pour s'adresser au président de la République. Mais je ne crois pas que la simplicité qu'on a introduite dans les relations entre les citoyens et la politique inclut d'appeler le président de la République Emmanuel.
Non, bien sûr, mais si on s'éloigne encore une fois ça, la campagne, elle s'est faite, vous l'avez faite, la campagne Mounir Majoubi, la campagne d'Emmanuel Macron, elle s'est faite
dans une très grande proximité, dans une très grande transparence, avec un numérique qui a permis aux citoyens
exactement
de s'engager dans notre campagne, voilà, de voir au quotidien le président. Et c'est un président de proximité, c'est un président qui est à l'écoute.
Moi, à l'arrivée, on a quelqu'un qui s'inspire de Gaulle. C'est très bien, De Gaulle. Loin de moi l'idée de vouloir s'éloigner de cet homme qui a initié le plan calcul. Mais De Gaulle, c'est quelqu'un qui existait en son temps. Aujourd'hui, on est plus proche de valeurs qui sont des valeurs d'horizontalité.
Je ne souhaite pas qu'on fasse cette comparaison, parce que j'ai la chance d'accompagner le président de la République dans de nombreux déplacements en France ou à l'étranger. Et je peux vous assurer que Emmanuel Macron, à la rencontre des jeunes, Emmanuel Macron à la rencontre de professeurs, Emmanuel Macron à la rencontre d'entrepreneurs, c'est avant tout celui que vous avez toujours vu et toujours connu, un homme qui est venu sur le même sol, à la même hauteur, parler avec des femmes et des hommes de leur quotidien. Et ça, c'est une réalité absolue. Il n'y a pas cet homme qui ferait un geste du bras de très loin et qui saluerait la foule. Ouais, je vois au quotidien un homme capable de se mettre à hauteur de femmes et à hauteur d'hommes et de leur parler de leur vie. Chaque jour.
Recadrer les enfants, les mineurs, les protéger aussi, c'est votre rôle, Mounir Majoubi, puisque vous êtes secrétaire d'État au numérique. Comment protéger les mineurs de la pornographie sur Internet? C'est l'une des questions qui est de plus en plus posée. Quelles sont vos armes?
Alors, on en a plusieurs. Et aujourd'hui, on a lancé une consultation de toutes les personnes engagées sur le sujet, les associations familiales, les producteurs de films pornographiques qui, en France, se sont engagés pour lutter contre l'accès à leur propre contenu par les mineurs. Et puis, il y a ces nouveaux acteurs internationaux, les tubes, comme on les appelle, qui sont des mégastructures qui, d'ailleurs, à la fin des fins, appartiennent à très peu de propriétaires. C'est-à-dire que de très nombreux sites, à la fin, ont le même capital et détenus par les mêmes personnes qui, eux, sont plutôt dans des logiques d'hyper-accès et pas du tout dans des logiques de contrôle. Les Anglais sont allés un peu plus vite que nous et ont démarré une réflexion il y a un an et demi, deux ans. Et ils sont en train de faire des tests aujourd'hui sur identifier son âge avant de se connecter à un site pornographique. Et tous les sites pornographiques qui n'auraient pas mis un dispositif de contrôle de l'âge, eh bien, se verraient bloquer l'accès dans le pays. Quand on dit contrôle de l'âge, c'est pas juste « oui, j'ai plus de 18 ans
».
C'est des dispositifs avancés qui font que vous devez obtenir soit par votre carte bleue, soit en allant dans un bureau de tabac, un jeton qui vous permet d'avoir un contrôle d'âge, qui vous permet de vous connecter sans avoir à dire qui vous êtes, mais qui permet de prouver que vous êtes majeur. Bon, vous avez différents dispositifs qui existent. Le sujet aujourd'hui pour nous, c'est de savoir comment on fait mieux. Vous avez entendu l'alerte des professionnels ce matin. On a un véritable sujet de surexposition à la pornographie de mineurs très jeunes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des découvertes adolescentes faites discrètement sur l'ordinateur familial sans le dire à personne ou sur son téléphone portable de façon plus probable. On parle de mineurs de moins de 10 ans. On parle de mineurs qui, avec le portable dans la cour de récréation, regardent ces extraits et ensuite font des blagues assez salaces à de jeunes filles dans cette même cour. Donc on a un vrai sujet culturel à aborder. Et là-dessus, on va arrêter de subir ces plateformes en ligne qui inondent l'Internet de ces contenus-là sans aucun contrôle, sans aucune volonté de contrôle.
L'autre sujet de protection des mineurs, c'est celui de Parcoursup. Comment les protéger contre un algorithme perçu comme injuste, Mounir Majoubi ?
Comme un algorithme beaucoup plus juste et beaucoup plus transparent que APB. Moi, je suis très en colère contre APB. APB a été d'une injustice incroyable.
Bon, bah, je vais vous rassurer, APB n'existe plus,
Mounir Majoubi. Et vous savez que j'y ai massivement participé. Et un ministre de l'enseignement supérieur a tout fait pour qu'on arrête avec APB. APB, c'était l'injustice incarnée dans un algorithme. Un algorithme non transparent, qui n'expliquait pas sa méthode, qui n'expliquait pas ce qu'il faisait, dont la transparence...
Et Parcoursup n'est pas beaucoup plus transparent.
Mais Parcoursup est absolument transparent. C'est-à-dire que je l'ai répété très régulièrement à l'Assemblée, Madame Vidal l'a répété au quotidien, nous annonçons les chiffres chaque jour, les algorithmes
d'attribution... Ça, c'est pas la transparence.
Les critères
est-ce que
d'évaluation
vous pouvez, est-ce que vous pouvez révéler l'algorithme?
Mais on l'a mis en ligne.
Mais alors pourquoi y a-t-il... Alors pourquoi
nous
y a-t-il...
l'avons mis en ligne.
Pourquoi si y a-t-il des polémiques, par exemple, pour savoir si les élèves qui viennent de Seine-Saint-Denis sont désavantagés?
Alors là, c'est pas une question d'algorithme, c'est la question des règles que nous avons prises pour faire les attributions. Et le ministre de l'Éducation nationale l'a rappelé au Parlement la semaine dernière, ces règles que nous avons mises en place, au contraire, elles ont permis à plus d'élèves de venir s'inscrire en dehors de leur académie. Donc ces choses-là sont fausses. Elles sont fausses et elles ne sont pas liées à l'algorithme, elles ne sont pas liées au numérique. Aujourd'hui, avec Parcoursup, on a fait un algorithme qui applique les règles de droit et la loi que nous avons décidé de mettre en place et que nous avons voté. Et c'est transparent. Près de 80% des élèves, avec plus de 3 choix qui leur ont été proposés, ça n'est jamais arrivé.
Mounir Majoubi, est-ce qu'aujourd'hui notre système éducatif, il permet de former ces jeunes ingénieurs, ceux qui iront travailler dans le numérique? Est-ce que vous pensez que notre école est adaptée à ce secteur, le numérique, qui constitue l'un des viviers d'emploi de demain?
On doit toujours aller plus loin. Il y a le sujet de l'école, de l'éducation nationale, le sujet de l'enseignement supérieur. Comment on fait pour ouvrir des nouvelles classes de master, des nouvelles classes d'ingénieurs? Parce que effectivement, l'économie a besoin de plus de personnes sur ces sujets. Et il se trouve qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui ont envie de le faire. On a un grand sujet sur la mixité, et que vous allez aborder ensuite, qui fait que pour la troisième année consécutive, il y a moins de femmes qui s'inscrivent dans ces filières qu'on ouvre, ce qui est très dangereux. Et puis, il y a le sujet de la formation pro et la formation tout au long de la vie. Comment on fait de cet océan de nouveaux jobs qui arrive une opportunité pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi? Et c'est tout l'enjeu de la grande école du numérique, des 10 000 formations que nous avons annoncées avec Muriel Pénicaud, faire que des personnes qui sont loin de l'emploi, en 6 à 8 mois, vont être formées à un métier du numérique.
Merci Mounir Majoubi, vous êtes secrétaire d'État chargé du numérique.
Vous
Merci avez vous. Évoqué la question donc de la parité et de la mixité dans les métiers du numérique, parce qu'à côté de vous se trouve Camille Penn. Bonjour Camille Penn, vous êtes directrice de Futur, un festival dédié à l'innovation et au numérique qui se tiendra à la Villette à Paris du 21 au 23 juin. En partenariat avec France Culture, peut-être nous dire en deux mots en quoi consiste ce festival?
Oui, alors Futur est un festival que sans doute beaucoup de vos auditeurs connaissaient sous le nom de Futur en scène. On a changé de nom cette année, on s'appelle Futur. C'est un festival qui a la particularité de réunir à la fois tous les innovateurs, les gens des start-up, de la recherche, de l'industrie qui travaillent dans le numérique et le grand public. On peut y trouver à la fois beaucoup de démos, on peut tester des innovations en réalité virtuelle, en réalité augmentée, la blockchain, l'IA. On peut participer à de nombreuses conférences qui questionnent le futur. Et puis, on peut aussi participer à des sessions de co-création pour prototyper, pendant le festival, des solutions pour le futur. Et enfin, il y a une grosse programmation pour les enfants.
Grosse programmation qui permettra de découvrir quoi en particulier?
Alors, à la fois les métiers du futur, et puis de s'initier dès 4 ans à l'intelligence artificielle, à la robotique, à la programmation.
Aujourd'hui, il y a un sujet donc de mixité dans les métiers liés au numérique, avec une large majorité d'hommes qui travaillent dans ce secteur. Que peut-on faire pour attirer les femmes? Qu'est-ce qui explique d'ailleurs que les femmes soient minoritaires dans ces secteurs-là, Camille Penn?
Alors c'est vrai que c'est un constat largement partagé, le diagnostic est fait, les femmes ne sont pas assez représentées dans les carrières du numérique et c'est d'autant plus
étonnant. Dans quelle proportion ?
Alors il y a seulement 33% de femmes dans les métiers du numérique et dans ces 33%, seulement 27% sont dans les métiers du code, du développement, toutes les autres sont dans des fonctions support, RH, administration, marketing. Donc il y a un énorme progrès quand on pense que 50% de l'humanité sont des femmes, il faut les engager dans ces métiers qui ont et dans cette transformation, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux.
Est-ce qu'il y a eu une progression ?
Je crois qu'elle est vraiment très, très
elle
légère,
est marginale.
En fait. Oui, je pense qu'on le voit, il y a de plus en plus de femmes qui vont vers les formations scientifiques, mais toujours aussi peu dans les formations d'ingénieurs et encore moins dans ces formations d'ingénieurs vers les formations d'électronique et d'informatique. Je crois qu'il faut agir vraiment à la fois sur la question de la représentation des femmes dans les métiers du numérique, puisque on sait que on voit qu'en fait, avant 11 ans, les petites filles sont aussi passionnées que les petits garçons par le code, par le jeu, la découverte autour de l'informatique. Et c'est plus tard qu'elles se détournent de ces filières. Et c'est sans doute lié à des questions de représentation. Il n'y a pas assez de rôle modèle. On ne se représente pas assez de femmes dans ces carrières d'entrepreneurs, de développeuses, tous les métiers autour du numérique.
Est-ce que ça concerne pas plus généralement les métiers ou les filières scientifiques? Est-ce qu'il n'y a pas un problème plus large que celui du numérique, Camille Penn?
Il y a un problème dans la société, de toute façon, globalement, sur le fait que les femmes sont moins représentées dans les secteurs les plus porteurs, sont moins représentées à des postes à enjeux, à des postes très qualifiés. Donc là, c'est effectivement un problème global. Et d'ailleurs, là, la prise de conscience qui a eu lieu cette année avec le mouvement MeToo, elle a aussi touché le secteur du numérique qui maintenant...
C'est-à-dire
Il y a eu aussi une prise de conscience. Elle avait déjà commencé. Il y avait dans la Silicon Valley des femmes qui avaient dénoncé le sexisme chez Uber ou dans des entreprises phares de la Silicon Valley. Et aujourd'hui, il y a des slogans qui ont été lancés. Le hashtag jamais sans elle pour dénoncer par exemple, quand il y avait un panel sur la transformation numérique où il y avait que des hommes qui parlaient, pour réclamer la parité, dire qu'il y a aussi des femmes inspirantes qui agissent dans ce secteur-là. Il y a donc, voilà, maintenant c'est, les gens de cet écosystème d'innovation numérique savent que ce n'est pas possible de ne pas travailler dans le sens de la parité.
Alors, cette question de la parité, aujourd'hui, elle existe. Le sujet existe parce que donc vous en saisissez, notamment Camille Penn. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des lois? Est-ce que la question des quotas ne se pose pas précisément pour réussir à instaurer une plus grande parité? Je ne parle pas d'une équivalence 50-50, puisque donc là, aujourd'hui, d'après les chiffres que vous évoquez, on en est loin. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans le domaine juridique?
Je crois qu'il y a des lois qui existent déjà sur la question de l'égalité professionnelle et qui s'appliquent au secteur numérique comme au reste. Moi,
Je parlais plutôt d'une loi, par exemple, comparable à celle auquel on a vu... dont on a vu les effets sur les conseils d'administration, avec aujourd'hui une obligation, par exemple, de faire entrer plus de femmes dans les conseils d'administration. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une obligation d'en passer par des mesures qui relèveraient des quotas ?
Moi, je mettrais plutôt les efforts sur la question de la formation, puisqu'actuellement, il y a aussi, c'est vrai, pas assez de femmes qui sont en fonction, qui sont dans ces carrières du numérique. Donc, s'il y avait des lois, s'il y avait de l'argent public à investir, ce serait vraiment pour accompagner davantage de jeunes filles, de jeunes femmes vers les carrières du numérique, encourager avec aussi des leviers les entreprises de ce secteur à recruter davantage de femmes et à les porter à des postes de responsabilité. Voilà.
Dernièrement, il y a deux jours, une plateforme illégale sur le dark web, j'allais dire le black web, le dark web, qui a été démantelé et il s'agissait d'un forum qui s'appelait Black Hand, la main noire, qui proposait à la vente depuis plus de 2 ans de nombreux produits et services illicites et elle était dirigée par une femme, par une mère de famille d'Armentière. Est-ce que ça n'est pas le signe finalement que la mixité, elle s'instaure, même si c'est parfois sur des secteurs qui ne sont pas des secteurs nécessairement recommandables du web, Camille Penn?
Alors si, c'est certain, et il y a beaucoup de femmes actrices du numérique, puisque nous, à Futur, dans notre programmation, on a 50% d'intervenantes qui sont des femmes, donc la preuve qu'il en existe. Et c'est vrai aussi que Internet a représenté aussi un espace d'expression d'action pour beaucoup de femmes. On sait que c'était les femmes qui étaient le plus représentées dans la blogosphère. Les activistes aussi, les féministes se sont vraiment emparées. Je pense à l'association Georgette Sand et ses vidéos sur la taxe tampon se sont vraiment aussi emparées de cet espace. Peut-être aussi parce que justement, cachées derrière leur écran, elles sont libérées de la représentation de leur genre. Et donc, je ne suis pas tellement étonnée finalement d'apprendre que c'est une femme qui était derrière ce réseau.
On a parlé de MeToo justement. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous est possible en tant qu'actrice du numérique, Camille Penn, de nous donner votre sentiment sur la manière dont ce mouvement a fait ou non progresser la cause des femmes?
Il l'a fait certainement progresser. Je pense qu'il y a une prise de conscience très nette. Moi, je l'ai aussi observé donc dans mon milieu professionnel, qui est le milieu du numérique, J'ai jamais observé de sexisme très fort directement, mais j'ai vu tout d'un coup une éducation qui s'est faite chez mes collègues hommes.
Il était question de sexisme, il était aussi question de harcèlement, oui, voire de viol dans certains cas. Est-ce que pour ce que vous en connaissez, dans les entreprises où vous avez été conduite à travailler, est-ce qu'il y avait des pratiques de ce genre?
De harcèlement, de viol. Alors il y a eu un scandale à l'école 42, sur le fait que c'était je crois en décembre 2017, école d'informatique, oui, sur le fait que certains élèves harcelaient sexuellement la petite minorité de femmes. Il n'y a que 10% d'élèves femmes dans cette école, mais il s'est avéré que c'était en fait vraiment une minorité. J'ai pas eu vent de faits de harcèlement aussi fort qu'on a pu entendre dans la Silicon Valley chez Uber par exemple. De sexisme, par contre, c'est clair dans des industries comme celle du gaming, qui sont hyper importantes.
Du jeu.
C'est difficile. C'est vraiment des cultures sexistes. Il y a des développeuses qui sont remerciées parce qu'elles embellissent Open Space, qui peuvent être harcelées. Donc on sait que ça existe et que la culture professionnelle du monde du numérique doit évoluer aussi pour être plus inclusive.
Le cyberharcèlement, parce que là aussi, c'est quelque chose qui a été rendu possible par le numérique. MeToo a été lancé grâce à Twitter, mais le cyberharcèlement existe aussi de manière considérable. Quel regard portez-vous là-dessus ?
Alors c'est vrai que tout ce qui est revenge porn, slut shaming, c'est beaucoup des femmes qui en sont la victime, c'est clair.
On va essayer de traduire les deux mots que vous venez de prononcer. Revenge porn, une manière de se venger sur son ancienne compagne ou son ancien compagnon au travers de films, vidéos présentant des moments intimes qui sont diffusés sur Internet.
Et cette shaming, humiliation de salope, on peut le dire. Et tout d'un coup, quand on le dit en français, ça choque d'autant plus. Et c'est vraiment, c'est effectivement, les femmes qui sont les premières cibles de ce phénomène que, honnêtement, moi, je ne sais pas quantifier. Et là, peut-être, il y aurait besoin de le quantifier, de mieux recenser ces faits de justice pour pouvoir mieux les juger.
Mieux les juger, mais aussi peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qu'Internet a rendu possible. Il y a eu donc beaucoup d'espoir lorsqu'Internet est apparu, parce qu'on pensait que c'était un espace qui rendrait la communication plus aisée entre les individus. Et aujourd'hui, récemment encore, l'un des inventeurs d'Internet l'a dit, on est face à une sorte de création monstrueuse, avec certes des choses très bonnes et d'autres choses qui sont absolument abominables, avec une sorte d'inconscient comme ça qui se déroule, qui se libère de manière décomplexée, donc au travers d'insultes racistes, homophobes, mais aussi d'insultes sexistes et de cas de harcèlement. Est-ce que finalement, ça n'est pas quelque chose de très ennuyeux que d'avoir aujourd'hui cet Internet dont on ne sait pas trop quoi faire ?
Je suis moins pessimiste que vous. Le slogan, le manifeste du Festival Futur cette année, c'est « Tous les futurs sont possibles ». Je suis convaincue qu'il est encore tout à fait possible de maintenir cette utopie d'un Internet libre, d'un Internet d'échange et démocratique. Et des événements comme celui dont j'ai la charge, c'est ça notre mission justement, c'est d'éduquer, de faire changer la culture autour de l'innovation numérique et on le fait. Alors déjà en étant un événement gratuit, très inclusif, qui accueille plein de publics, en mettant en avant des voix de femmes différentes. Rebecca Enonchong, qui est une des femmes de la tech les plus puissantes en Afrique. Anka Petreux, qui est une entrepreneuse sur le sujet de la blockchain et de la santé. Oulima Tagay, qui est spécialiste des cultures numériques en Afrique. Donc ça, c'est une première façon de valoriser des voix alternatives, pacifiques, qui montrent un autre Internet. Aussi en éduquant, avec, comme j'ai mentionné au début, des ateliers de formation pour les très jeunes enfants, puisque c'est dès cet âge du primaire où on peut aussi construire son esprit critique autour de ces outils de production et de création que sont le numérique. Mais aussi, ce qui est important pour nous dans le futur, c'est de montrer que la diversité... Alors, les femmes, l'égalité, c'est un vrai combat, mais cette utopie d'Internet dont vous parlez, ce lieu d'échange, il se joue aussi dans la diversité globalement, dans inclure aussi la diversité quand qu'elle s'exprime en termes d'origine ethnique, de religion, d'orientation sexuelle, et aussi des personnes en situation de handicap, les personnes exclues du numérique. C'est toute cette inclusion qui doit maintenir l'utopie d'Internet.
Est-ce que du coup, la Startup Nation, ce genre de choses, ont été très moquées parce qu'on a considéré que cela concernait principalement un milieu de jeunes gens qui étaient des jeunes gens éduqués, qui étaient aussi parfois des jeunes gens, en quelque sorte, gâtés par la naissance. Vous qui êtes une actrice de ce milieu, qu'est-ce que vous observez? Est-ce quelque chose de différent ou bien est-ce un milieu conforme à cette description-là?
Alors, je pense que effectivement, la Startup Nation, c'est une expression qui nous vient. C'était Israël, la Startup Nation, et on sait. Voilà, le président de la République s'est réapproprié cette expression. On peut choisir de l'incarner différemment ici en France. On peut donner notre propre définition à la Startup Nation. Et ce qui moi m'enthousiasmerait, ce serait que de faire en sorte que chaque citoyen puisse habiter cette idée de Startup Nation, que l'esprit d'entreprise soit suscité chez chaque citoyen et chaque citoyenne. Et qui soit effectivement pas que l'entrepreneuriat soit pas vu seulement comme l'idée de je crée ma start-up, je lance un produit, mais simplement aussi j'entreprends, je suis acteur de mon futur ou actrice de mon futur. Et ça passe aussi par l'économie sociale et solidaire, par l'associatif, par l'engagement politique. Ça peut être une lecture de la Startup Nation. Et justement, à futur, on va montrer une diversité. On aura une session avec des entrepreneuses femmes au-delà de 50 ans. C'est pour montrer la diversité en fait du monde de l'entrepreneuriat. C'est pas que les jeunes hommes diplômés d'école de commerce.
Diversité géographique aussi, puisqu'il y a encore une fracture numérique en France, une fracture territoriale. Est-ce que vous la voyez se résorber, Camille Penn?
Oui, alors justement, je crois que la French Tech a été utile dans ce sens, puisqu'il y a eu les métropoles French Tech qui ont été créées et un vrai dynamisme s'est mis en place à l'échelle des régions et maintenant des métropoles comme Lyon, comme Lille, comme Nantes. Il y a le Web Today qui s'est passé à Nantes très récemment avec justement un prix de la prix Femmes Digital West, donc sont très toniques et je sens effectivement que Paris est moins le centre d'ultra-convergence de tous les investissements et de toutes les entreprises.
Camille Penn, vous restez avec nous. Vous êtes directrice de Futur, un festival dédié à l'innovation et au numérique qui se tiendra à la Villette à Paris du 21 au 23 juin. France Culture en est partenaire.